Salut! Je vais vous parler de Diceless Dungeons. Alors, Diceless Dungeons, c'est un jeu de rôle sans dés et qui a une espèce de vibe OSR très très marquée et qui, moi, m'a plu assez rapidement, assez vite. Il faut savoir que la version originale, la version anglaise, a été éditée par l'éditeur indépendant Old House Rules. Qui est tenu par James Robin Roberts. Et c'est un éditeur indépendant qui était notamment connu pour Pits and Perils, qui est un jeu de rôle très old school aussi, très à l'avant-garde de l'OSR. L'original est donc sorti en début mai, aux alentours du 1er mai 2017. Et ce qui a fait que j'ai un peu accroché assez vite Diceless Dungeons, c'est qu'il a été traduit par John Grumph, qu'on ne présente plus, hein, début juin. Et donc il est sorti, en gros, la traduction est sortie à peu près un mois après l'apparition en VO, ce qui est assez remarquable. Alors moi, ça m'a intrigué, j'ai vu ça sur les forums, sur Google+, j'ai dit, bien envie de voir ce que ça donne, donc j'ai acheté le PDF en version française, et bien entendu, on retrouve la patte de John Grumph, quoi. On a une très très belle mise en page, on a des illustrations par LG lui-même, hein, donc c'est plutôt chouette, plutôt joli. Et ce qui m'a épaté, c'est le système. Voilà. Le système il est à la fois OSR et Diceless, et c'est assez remarquable, hein, je pense. Je ne sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez. Moi, qui m'a assez bluffé. C'est un système dont l'auteur dit très bien, c'est complètement centré sur l'exploration de donjons. On se fiche un petit peu de l'auberge. Il y a même une petite section qui explique l'auberge, si vous y tenez vraiment, allez-y. Tout ce qui est ce qui peut se passer dans le village aux alentours, allez-y, mais c'est pas très important. Par contre, il y a une section très importante le dessin de cartes. Les mouvements que peuvent faire les personnages, on calcule les mouvements par petits carreaux ou petits hexagones en fonction de ce que tu veux. C'est un monde de medfan assez classique, hein, sauf qu'il y a quand même assez peu de magie. Et d'ailleurs, même les aventuriers sont normalement pas utilisateurs de la magie. Hein. Il y a des règles optionnelles, hein, pour créer des apprentis sorciers ou des aventuriers qui auraient des pouvoirs magiques, mais c'est assez peu recommandé. Il y a un bestiaire à la fin de l'ouvrage, enfin, vers la fin de l'ouvrage, qui est plutôt complet, qui est plutôt bien fichu. Tu vas voir vite que en fait faire de la magie c'est pas super rentable parce que bon, c'est efficace, hein, les sorts qui sont décrits sont intéressants, hein, je veux dire, faire de la magie c'est intéressant, mais par contre ça te coûte. Ça te coûte parce qu'en fait, évidemment, pour pallier à l'absence de dés, de hasard et de ah tiens, je vais réussir l'action, ah tiens, je vais réussir à latter la tronche au gobelin. C'est un système de ressources et de gestion de ressources. C'est-à-dire que le personnage a 10 points de vie, on commence son aventure avec 10 points de vie, et quand il a 0, il meurt. Et il a également d'autres ressources comme les équipements, les talents. Alors il peut choisir parmi une liste de talents, il peut choisir parmi une liste d'équipements. Alors c'est assez variable, hein. Il y a un équipement de base, et puis il y a des équipements optionnels. Et il y a les talents qui sont utilisables soit une fois par session, soit une fois par jour, etc. Pour se sortir de situations, pour avoir un avantage certain sur une autre situation. Et voilà, c'est tout ce qu'on a, quoi. On a juste alors c'est matérialisé comme on veut, hein, par des pions, des cailloux, des grains de sable, ce qu'on veut. La fiche de personnage, elle est très très simple, évidemment, parce que bon, tout le monde a le même nombre de points de vie, et puis on débarque, quoi, on démarre l'aventure. Et il faut aller au bout du donjon avec toutes ces ressources-là, sans se faire griller, sans se faire buter, sans se faire écrabouiller par un piège. Et c'est là où on en vient au fait qu'on est sur de l'OSR très très tradit, c'est qu'on a un monde qui est très gritty, quoi, qui est très très dangereux. Il y a des combats qui sont pas mortels tout de suite, mais comme on a juste ces points de vie, et ben voilà, c'est tout, quoi. Et le système de combat est assez original. Moi, ça m'a assez bluffé, quoi. Chaque opposant a un chiffre qui représente sa puissance, par exemple 3, ou 2, ou 5, ou 10. Bon, on part du principe que quand même 10, voilà, c'est du dragon, hein. Mais en gros, les gobelins, ils ont 3, quoi. 2 ou 3. Et ça, les joueurs peuvent le savoir ou peuvent le deviner. Ils peuvent jauger ou mesurer quelle est la puissance, quelle est la hauteur de la puissance du groupe de gobelins qu'ils ont en face, du groupe d'orques ou des squelettes qu'ils ont. Et ça, cette puissance, ça va représenter le nombre de tours que va durer le combat. Et en plus de ça, le maître de jeu, dans sa tête, il détermine, il dessine des bonus aux dégâts, qui vont être des dégâts supplémentaires qui peuvent être infligés au personnage. Donc imaginons qu'on ait un ennemi qui a une puissance de 3, et puis le maître du jeu dit, bon, il a un certain avantage parce qu'ils ont des armes un peu bien, bien efficaces, et puis c'est un peu obscur, donc ils ont une espèce d'avantage sur la situation. Et donc ils vont avoir 2 points de dommages supplémentaires. Donc en tout, ils vont délivrer au personnage 5 points de dégâts. Mais ça, les joueurs ne le savent pas. Il faut qu'ils essayent de le deviner. Ils peuvent le deviner en posant des questions, ils peuvent le deviner en observant la situation. Le maître de jeu peut leur donner des indices ou pas, parce que peut-être que les choses sont un peu cachées, peut-être qu'ils ont une arme cachée derrière, peut-être qu'il y a des pièges dans la pièce dans laquelle ils se trouvent, peut-être que voilà, il y a tout un tas de choses qui font qu'ils vont avoir une variable d'ajustement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et ensuite, à chaque tour, donc il y aura, puisque l'ennemi est de puissance 3, il y aura 3 tours de combat. Et une fois que les 3 tours de combat sont terminés, les ennemis seront détruits. Voilà, ils seront détruits ou ils partiront, ils fuiront, ils seront hors de combat, assommés, etc. Voilà. Donc on sait, enfin le maître de jeu sait déjà combien de tours va durer le combat. Mais les joueurs ne le savent pas. Et en tout, pendant ces 3 tours, le maître de jeu se débrouille pour répartir 5 points de dégâts sur ces 3 tours. Par exemple, il peut faire un tour de jeu où il va mettre 3 points de dégâts, et puis les deux autres, il va mettre 2, ou bien il va répartir 2, 2 et 1. Enfin, il se débrouille, il fait comme il veut, c'est sa sauce. Mais il doit le savoir au moment où le tour commence, ou le tour se finit, quoi, au moment où il va infliger les points de dégâts. Il faut qu'il sache qu'il va devoir délivrer 5 points de dégâts en tout. Il ne peut pas y avoir normalement de tour à 0 point de dégâts. Je n'ai pas vu dans les règles un chapitre là-dessus. Et là où c'est super fort, c'est qu'en fait, par exemple, le maître de jeu annonce, bon là, pendant ce tour de combat, les gobelins se jettent sauvagement sur vous, ils vous maravent la tronche, et vous prenez 3 points de dégâts. Et là, les joueurs entre eux décident qui va prendre ces points de dégâts. Soit tout sur un personnage, soit on répartit plus ou moins équitablement en fonction du groupe que l'on a, et en fonction de la situation aussi, je veux dire, évidemment, l'archer qui se trouve très très loin. Il va pas prendre les points de dégâts des gobelins parce qu'il est loin dans la situation. Par contre, ceux qui sont en contact, eux, ils vont prendre les points de dégâts. Et c'est le groupe qui choisit les points de dégâts qu'ils vont prendre. Et toujours avec une histoire, un bluff quelque part, parce qu'ils vont se dire, mais c'est bizarre quand même, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc là, je vais prendre des points de dégâts dans la gueule, mais je sais pas encore jusqu'à où, quelle est ma limite. C'est-à-dire que s'il me reste plus que 5, plus que 4, plus que 3 points de dégâts, est-ce que je peux continuer le combat? Ou est-ce que je dois me barrer? Et une autre chose aussi qui explique le monde très mortel et très agressif, c'est les sorts. C'est-à-dire que les règles optionnelles de sorts expliquent qu'à chaque fois qu'on lance un sort de magie, il coûte un point de vie. Donc en gros, tu perds 10% de ta capacité à continuer l'aventure à chaque fois que tu lances un sort. Donc ils sont puissants, ils vont fonctionner, parce qu'il n'y a pas de jet de dés pour savoir si le sort réussit ou pas, puisqu'il réussit. Peut-être que la créature est immunisée, mais tu ne le sais pas. Et tu perds quand même un point de vie à chaque fois que tu lances. Donc, c'est pas super rentable pour les magiciens d'aller partir à l'aventure. Un autre truc aussi bah, qui découle un petit peu du fait que tu sois dans un monde dans lequel, enfin, que tu sois dans un système de règles dans lequel les questions que les joueurs vont poser vont influencer leur choix, etc., c'est que ben, là, on est vraiment sur du player skill. C'est vraiment les compétences du joueur beaucoup plus que les compétences du personnage. Parce que les personnages, ils sont compétents. Une action, elle est réussie si elle est plausible, quoi. Le maître de jeu, il va poser la question, bon, comment tu vas faire pour escalader les murs? Ah, bah, je vais prendre ma corde, et puis je vais l'attacher comme ci, comme ça, et puis j'ai des piolets, je vais pouvoir mettre des prises, etc. s'il n'y a pas de prise, etc. Ah, ok, bah, c'est bon, c'est plausible, tu réussis, tu montes, quoi. Si c'est pas plausible, bon, bah, tu risques de perdre un point d'équipement. Par exemple, bah, tes piolets, ils se cassent, ou ta corde, tu n'arrives pas à la détacher au moment où tu t'en vas, donc elle reste là où elle est. Et puis, il faut être malin, quoi. Disons qu'il faut poser les bonnes questions au moment. Il y a une très très forte implication des personnages, enfin des joueurs, pardon, dans l'évolution de la situation et dans le choix qu'ils vont vouloir faire. Ça va vraiment dépendre des questions qu'ils posent. Si ce sont les bonnes questions, le maître de jeu, il doit leur répondre honnêtement, hein. Il est là pour arbitrer aussi, et pour être un petit peu pour les aider, pour les aider, pour les guider. Mais s'ils ne posent pas les bonnes questions, ils vont prendre les pièges dans la tronche, quoi. Je cherche les pièges. Ouais, non, mais explique-moi comment tu vas chercher les pièges. Quel piège tu cherches? Tu cherches quoi? Une trappe, des pics, une grille qui va s'abattre sur toi? Comment ça va se faire, quoi? Et puis, les joueurs, ils vont pouvoir aussi, comme le monde est très mortel, très mortifère, le système est très mortifère, ils vont essayer de chercher à éviter le combat. Comment? Par la ruse, en essayant de corrompre les personnages qu'ils ont en face. Alors, si c'est des squelettes, ça peut pas marcher, pas forcément, mais par exemple, si c'est des gobelins, tu regardes et tu dis, mais ils ont l'air comment? Ils ont l'air en forme, ils ont l'air d'avoir faim, ils n'ont pas l'air d'avoir faim, parce que je peux leur filer une ration de bouffe pour les calmer, par exemple. Et là, on est encore sur la gestion de ressources. Par contre, on est sur de la gestion de ressources maligne et intelligente, parce que bah, plutôt que de voir les points de vie descendre, on va voir le nombre de rations de survie diminuer, mais c'est pour la bonne cause, parce que peut-être qu'effectivement, ma ration de survie elle va diminuer, je vais sacrifier quelque part une part de mon équipement, mais je vais passer la porte sans me faire latter la gueule, donc je vais pouvoir continuer et je vais pouvoir aller chercher les trésors dans la salle suivante, quoi. Tout ça pour dire que, voilà, pour moi, c'est vraiment de l'OSR dans la pure tradition, et en même temps, c'est ce qu'on pourrait appeler un story game, parce que c'est vraiment une très forte implication de la narration. Et dernier point, effectivement, hein, c'est l'arbitrage du maître de jeu. On est toujours dans le rulings, not rules, quoi. Il y a des règles, mais comme les règles sont pas dirigées par une table de G, de D, et puis sur 6 ou 9, voilà ce qui se passe, ben c'est l'appréciation du maître de jeu. Et effectivement, l'appréciation du maître de jeu, il doit être le plus juste possible, et le plus et il n'est pas là pour sanctionner les joueurs, il n'est pas là non plus pour leur faire des cadeaux. C'est-à-dire que si effectivement ils cherchent pas les pièges, ils vont les prendre, les pièges dans la gueule. Et il va vraiment avoir une espèce d'arbitrage très 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 subjectif de la situation, mais en même temps c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme il n'y a pas de règle objective, ça va être la subjectivité, mais en même temps, voilà, le maître de jeu, il est là aussi pour faire en sorte que les joueurs s'amusent et que tout le monde s'amuse à la table, quoi. Un dernier point à propos du livre. Quand j'ai acheté la VF et que ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment fait kiffer, j'ai acheté la VO. J'ai acheté le PDF en VO. Et j'étais assez déçu par la mise en page de la VO. Parce qu'en fait, le choix. Alors, la mise en page, encore le layout, ça va à peu près. C'est du A5 très chouette, quoi, très, très, enfin, très, très lisible. Hein. C'est pas un document Word envoyé comme ça. Mais il y a un choix de police de caractère qui est assez discutable. C'est un genre de police de caractère machine à écrire, qui pour moi est une fausse bonne idée, parce que ça rend vraiment la lecture à l'écran très difficile et très désagréable. Il y a des illustrations old school qui sont, voilà, qui sont ce qu'elles sont. C'est du noir et blanc, très, 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 très différent évidemment des illustrations originales par John Grumph. Mais en fait, j'ai eu une agréable surprise quand j'ai acheté le livre. Parce que le livre est achetable en impression à la demande via Lulu. Et en fait, le livre papier est beaucoup plus lisible. C'est la même police de caractère, hein, bien sûr, mais imprimé sur du papier, c'est quand même beaucoup mieux. Et par contre, je recommande que ce soit le PDF ou le print on demand sur Lulu pour la version française. Voilà, c'est nickel. Il n'y a vraiment absolument rien à reprocher à cette édition-là. Voilà, j'espère que cette critique t'a plu. Et puis, ben, si ça t'a pas plu, ben, tant pis pour moi. Et puis, ben, j'espère à une prochaine fois. Bisous!